Et nous accueillons ce soir Paul. Bonsoir Paul. Allô,
allô.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous m'entendez bien ?
Je vous entends. Vous êtes un peu loin du téléphone, mais je vous entends.
Bon, j'espère que je suis bien audible.
Oui, ne vous inquiétez pas.
Et bonsoir également à tous les auditeurs et auditrices hein, de la Libre Antenne. J'ai eu l'occasion de m'exprimer il y a quelques mois avec Olivier Delacroix et Sabine Marin.
Oui. Ah, vous faites la tournée des popotes, c'est bien. C'est bien. Alors, quel est le sujet que vous voulez que nous abordions tous les deux ? Dites-moi.
J'avais proposé à votre collègue j'avais opté plutôt pour un thème sur les fugueurs.
D'accord, parce qu'il vous concerne ?
Oui, tout à fait, j'ai connu ça. Bon, moi j'ai déserté en 65 ans.
Oui.
J'ai fait des fugues, j'ai eu l'occasion de faire 3 fugues en 1971, 1972 et 1973.
Alors, simplifiez-moi, parce qu'il est tard, simplifiez-moi la vie, vous aviez quel âge ?
Alors, en 1971, j'avais 15 ans.
15 ans, d'accord.
En 1972, j'avais 16 ans et 1973, j'avais 17 ans.
Et vous fuguiez, vous étiez dans votre famille, vous fuguiez tout seul, avec des amis, avec de la...
Non, tout seul.
Tout seul.
Alors, ce qui serait plus simple, parce que j'ai écrit des textes, je suis écrivain aussi, hein, j'ai écrit 3 livres et 80 textes à peu près.
Mm-hmm.
Donc là, si vous permettez, je vais vous lire un texte sur les fugueurs que j'ai rédigé le 27 décembre 2016.
D'accord.
Donc c'est une histoire, vous êtes d'accord
ou... Oui, si, évidemment. Alors évidemment que si ce doit être une très très longue lecture, donnez-nous les références du livre pour que nous puissions lire tranquillement. Mais si par contre c'est un extrait que vous voulez nous lire très volontiers, je vous écoute.
Non, c'est un exposé assez concis, c'est une page sur...
D'accord.
J'en ai pour 3 minutes.
Non, prenez votre temps, je vous en prie.
Donc voilà, c'est pas très long. Et bon alors c'est... En fait, c'est un texte, c'est à la fois tragique, c'est un texte tragicomique, en fait.
Et qui est le reflet, c'est de l'écriture, c'est de romanesque ou c'est le reflet de la réalité de ce qui vous est arrivé ?
Ah non, c'est authentique, c'est
D'accord.
la réalité.
Très bien, alors, nous vous écoutons.
Non, moi je ne suis pas un romancier, hein, moi je suis... Non, pas du tout.
D'accord.
Non, moi, parce que mes livres, c'est des autobiographies, hein, donc... Alors, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein.
Lancez-vous dans la lecture. De toute façon, vous savez, tout peut choquer ou tout peut rencontrer les émotions des uns et des autres. On ne peut pas plaire à tout le monde, de toute façon. Donc, dites ce qui vous est arrivé, point, comme vous l'avez écrit. Ne vous inquiétez pas.
Bon, comme je l'ai vécu et je m'en souviens très bien.
Absolument.
Donc voilà, les fugueurs. Dans certains milieux familiaux, violent, il arrive que des ados soient obligés de quitter leur domicile pour se mettre en sécurité. Car physiquement, ils ne font pas le poids, les jeunes filles en particulier. En 1971, lorsque j'avais 15 ans, j'ai sauté une phrase parce que je préfère pas la citer. Cette année-là, ce fut ma première fugue.
Mmh.
En effet, en rentrant de l'école, presque arrivé à la maison, rue Guillaume Tosser, mon frère aîné est venu à ma rencontre pour m'annoncer que j'allais prendre une nouvelle raclée, sans raison particulière. J'ai donc fait demi-tour et suis allé trouver Michel, l'un de mes copains, Blanc-Bézélec, qui résidait à 1 kilomètre de là. J'ai expliqué à sa mère Micheline que je ne pouvais pas rentrer à la maison pour faire mes devoirs scolaires. Compréhensive, elle m'a installé un petit matelas dans son garage pour dormir. J'y ai passé 2 nuits. Le troisième jour, Philippe m'a retrouvé. Il m'annonça que le vieux s'était calmé provisoirement et que je pouvais regagner ma chambre. Puis, en été 72, de la mi-juillet à la mi-août, j'ai à nouveau pris la fuite, toujours pour des questions de sécurité. J'ai donc passé 1 mois complet sur les dunes de l'Abérildute, à 25 km de mon domicile. J'ai planté ma minuscule tente dans l'herbe, camping sauvage et vue sur la mer. Ma mère m'avait donné un peu d'argent pour m'acheter à manger. Par contre, je ne pouvais pas me laver, à part les bains de pied dans l'océan Atlantique, car j'étais aquaphobique. Je n'ai jamais voulu apprendre à nager. De plus, je suis signe du Verseau, signe d'air, ce qui explique ma passion de l'aviation, peut-être. Le vieux était également en congé à ce moment-là et ne savait pas où je me trouvais. Mon débarras. L'année suivante, toujours à la même période, j'ai réitéré l'opération. Mais cette fois, je disposais d'une mobylette que ma mère avait pu m'offrir en se saignant aux quatre veines. Outre mes affaires de camping, j'avais également emporté avec moi ma carabine à répétition semi-automatique avec chargeur de 10 coups en calibre 22 long rifle. Ma mère m'avait acheté cette arme pour modifier les rapports de force en notre faveur. Et pas question, bien sûr, de la laisser dans ma chambre que Robert inspectait en mon absence. Et je l'avais équipée d'une optique pour le tir de haute précision. D'ailleurs, un matin, de très bonne heure, j'ai abattu un lapin à l'arrêt dans un champ labouré. Pauvre bête inoffensive. En réalité, c'est la bête offensive que je voulais zigouiller. Transfert d'agressivité. J'ai donné le lapin à Yves, autre copain qui lui aussi avait planté sa plante à côté de la mienne. Ce sont ses parents qui l'ont mangé quelques jours plus tard, me semble-t-il. À Lundildut, il y avait d'autres ados, garçons et filles. Tous les soirs, nous nous retrouvions au bar-tabac restaurant Le Neptune, qui disposait d'une petite salle de jeu avec billard électrique et baby-foot. Il y avait parfois aussi, le samedi soir, des balles de mariage. Certains de ces jeunes sont devenus de bons potes, dont Roland, Serge, Michel. Mais en 1973, j'étais devenu presque aussitôt que le vieux, Robert, on va l'appeler. Alors, méfiant, il n'a plus jamais osé lever la main sur moi. C'était il y a 43 ans, sachant que j'écris ce texte en 2016. Mmh. Voilà, c'est fini.
Alors, merci de cette lecture, parce qu'évidemment, elle relate d'abord une histoire qui a été donc beaucoup bousculée alors, par ce papa. C'était votre père ou c'était un beau-père ?
Non, c'était mon géniteur.
C'était votre géniteur, d'accord. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui faisait les violences de cet homme ? Il frappait n'importe qui, ou il frappait ses enfants exclusivement, ou il était sous alcool, est-ce qu'il était dépressif ? Comment lui-même a-t-il été éduqué, élevé ?
J'en sais rien du tout, parce qu'on lui a jamais adressé la parole. Il n'y avait aucune communication dans notre famille.
Et votre mère, qui semble vous avoir d'une certaine manière protégée sans vraiment vous protéger, puisqu'elle est restée avec lui, mais en vous donnant des moyens d'autonomie succincts, mais des moyens assez faibles, mais malgré tout des moyens d'autonomie, ou en cautionnant en tout cas vos fugues, comment vous comprenez qu'elle soit restée avec lui ?
On en parle beaucoup actuellement. Hein, c'est la soumission, c'est le syndrome de Stockholm.
D'accord.
Parce que ma mère a vécu 35 ans de violence conjugale, de 1958 à 1993. Et c'est moi qui ai mis un terme. Je n'ai pas eu le choix.
Mmh. Voilà. Vous avez mis un terme, c'est-à-dire de quelle manière ?
J'ai frappé un grand coup sur la table. C'est une métaphore, mais ce n'est pas vraiment une métaphore, puisque...
Monsieur. Vous avez...
Je suis intervenu à leur domicile par effraction en leur absence. J'ai fait un peu de casse matérielle, quoi.
D'accord.
Bon, après, il y a eu toute une histoire, mais bon, je vais pas... C'est compliqué, bon. Mais disons que... Comment dire... Moi, j'ai fait un texte... j'ai tracé un petit peu le profil psychiatrique du paternel.
Oui.
Et parce qu'il avait pas mal de tares. Alors d'où ça vient ? Bon, ce que j'ai su avec ma mère, après ce que j'ai pu en déduire, c'est qu'il détestait les enfants, il a toujours détesté les enfants, parce que quand lui, il avait 5 sœurs et un frère, toutes cadettes.
Mm-hmm.
Donc, toutes plus jeunes. Donc pendant toute sa jeunesse, il n'a pas arrêté d'entendre les enfants brailler la nuit, tout ça, faire des bêtises, tout ça. Et je pense que ça l'a rendu psychopathe. Et puis après, il y a eu la guerre d'Algérie.
Mmh.
Donc, on était en Algérie, nous, pendant 4 ans. Alors, ça n'a rien dû arranger non plus. Mais en fait, nous, bon, en Algérie, on n'a pas eu à subir de sévices de guerre. Mais par contre, nous sommes devenus des victimes d'après-guerre, comme des centaines de milliers de personnes suite à la guerre d'Algérie, c'est-à-dire les harkis, les pieds noirs, les appelés du contingent, etc. quoi.
Mmh. Et dans cette guerre, votre père a-t-il joué un rôle ou il a été, comme nombre de familles, subissant les risques, les dangers, etc. Est-ce qu'il a joué un rôle de violence, de défense ou d'attaque ?
Disons qu'il a participé, il était mécanicien avion.
D'accord, d'accord.
Il est mécanicien avion, mais lui, personnellement, Il avait très très peu de risques. Par contre, nous vivions à l'extérieur. C'est nous qui avions les risques. Parce que lui, dans la journée, il était bien protégé dans sa caserne. Il était sur une base aéronavale près d'Oran, hein, qui s'appelle l'Artigue. Mmh. Et donc, il avait peu de risques pour lui. Par contre, nous, on vivait dehors. Hein, donc, enfin, on vivait dehors. Nous étions susceptibles de nous faire attaquer ou d'être pris dans un attentat, quoi. Mmh. Non, non.
Et est-ce que, de votre côté, vous êtes dans votre, vous avez une fratrie, vous êtes tout seul comme enfant?
Ma famille est complètement détruite. J'ai deux frères, j'ai un frère aîné et un frère cadet. D'accord. Mon frère aîné, il a 2 ans de plus que moi, juste. Hein, on est tous les deux du mois de janvier.
Oui.
Et moi, janvier 56, et lui, janvier 54. Mmh. Et mon petit frère, il a 9 ans et demi de moins que moi. Et on se voit plus, on se déteste. Enfin, ouais, on se déteste. Mes deux frères, enfin, mon frère aîné me déteste. Il déteste mon petit frère pour des raisons de politique extérieure, ce qui est complètement absurde, hein, puisque mon petit frère, lui, il est pro-palestinien. Mon frère aîné, il est pro-israélien. Hein, il a vécu 8 ans en Israël. Bon, maintenant, il est sur Lyon, hein, depuis pas mal d'années. Là. Il est sur Lyon. Et puis, mon petit frère, lui, il est à Vancouver depuis 1994.
Et vous, au milieu de tout ça, eux se détestent, vous ne les voyez plus, vous les détestez également, ou est-ce que vous avez...
Non, je ne déteste pas. Non, non, moi, je suis pas quelqu'un qui déteste. Hein. Bon, je ne dis pas que, comme vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas aimer tout le monde.
Bien sûr.
Mais de toute façon, mon frère aîné, pour moi, il n'existe plus. Il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait pour ma mère. Jamais rien fait. Mmh. Parce que les violences exercées sur ma mère, donc violences physiques, psychologiques, hein, j'ai été témoin aussi, hein. Mmh. Et bon, j'écris un texte aussi là-dessus. Enfin, j'écris plein de textes. Et où est-ce que je voulais en venir?
Oui, sur les violences physiques, c'est intéressant. Alors, d'abord, c'est merveilleux que vous écriviez parce que ça vous donne l'occasion de déposer à l'extérieur de vous tout ce qui est votre histoire. Et puis, ça permet aussi, parce que j'entends bien dans ce que vous dites, le souci de la protection, puisque vous en voulez à votre frère aîné de ne pas avoir protégé votre mère alors qu'il était plus grand que vous. Et vous, vous a fallu vous armer de force, il vous a fallu grandir pour pouvoir mettre un holà à cette violence exprimée. Et, et je pense
Ça a été, tout à fait. Mais ça a été, suite à mon action de représailles en septembre 93, donc j'ai attendu 23 ans pour faire cesser le calvaire de ma mère. Il y a eu un dépôt de plainte contre moi. Bon, déjà, moi, je suis allé revendiquer mon forfait au commissariat de police, hein, central. Mm-hmm. Enfin, bref, on a été convoqués tous, puis finalement, l'affaire a été étouffée. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai même pas. L'affaire a été classée sans suite, mais j'ai jamais reçu de papier officiel comme quoi l'affaire a été classée sans suite. Mais en fait, la plainte qu'il avait déposée contre moi, il l'a retirée. Mm-hmm. Je savais qu'il la retirait. Parce que cette action, je l'ai faite dans 3 buts.
Donc l'action d'abîmer des choses, de rentrer par effraction,
ouais, de représailles matérielles. Ouais. Mm-hmm. Et je l'ai fait dans 3 buts. Oui. Premièrement, faire cesser le calvaire de ma mère. Mm-hmm. Deuxièmement, pour me venger pour tout le mal qu'il nous a fait.
Oui.
Et parce que moi, je suis un peu pour la loi du talion, quelque part.
Mm-hmm.
Et parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas admettre. Et troisièmement, pour l'obliger à porter plainte contre moi. Il est tombé dans mon piège. Ou les flics, ils ne sont pas tombés dans mon piège. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il a retiré sa plainte.
Et vous en attendiez quoi? Le fait d'être qu'il porte plainte vous permettait de mettre devant la justice les faits de votre père? C'est pour ça que vous vouliez qu'il porte plainte, pour avoir la possibilité d'être défendu par la justice?
Non, pour pouvoir expliquer certaines choses.
Votre histoire, c'est ça.
Mm-hmm. Parce qu'en fait, tout ce qui se passait chez nous, tout le monde était au courant. Nous, on est dans le même cas que... Évidemment, c'est un cas extrême. Je pense en particulier à Lydia Guardo, dont j'ai le livre, d'ailleurs. Tout le monde était au courant des sévices qu'elle subissait. Tout le monde, y compris la justice. Hein. C'est ce qui est marqué dans son livre. Hein. Mm-hmm. Tout le monde était au courant, les voisins. Bon, et puis là, dernièrement, on a beaucoup parlé de l'affaire, Valérie Bacot. Mm-hmm. Ça vous dit rien?
En fait, ça coupe de temps en temps, donc je croyais que vous étiez en train de terminer. Non, excusez-moi, non, je ne sais pas, je ne connais pas cette histoire.
L'affaire Valérie Bacot, c'est récent, elle vient d'être condamnée là, pour avoir tué son mari, comme l'a fait aussi précédemment Jacqueline Sauvage.
Mmh, d'accord. Parce qu'elle était battue, c'est ça ? Comme Jacqueline Sauvage. Parce qu'elle était battue par son mari ou agressée par son mari et elle a été condamnée parce qu'elle s'en est défendue, c'est ça ?
J'ai pas très bien suivi.
Oui, parce que votre téléphone coupe, donc vous avez dû... Bon, peu importe. De temps en temps, la mécanique n'est pas pour nous, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, nous allons y arriver. Donc, donc vous parlez de femmes qui se défendent de maris violents, c'est ça ?
Oui, oui, enfin, elle se défend. Bon, elle a fait un burn-out. Enfin, c'est pas un burn-out, c'est une décompensation. Mm-hmm. Et bon, là, c'est comme moi. Moi, c'est pareil, parce que mon existence familiale à moi a eu des conséquences gravissimes. Alors déjà, en 71, moi, on a commis une tentative de parricide.
Oui.
J'avais 15 ans, moi. Mon frère avait 17 ans. Moi, tout seul, j'aurais pas osé le faire, ça. On a essayé d'empoisonner notre bourreau.
D'accord.
Mais ça n'a pas marché. Et bon, parce qu'on avait un poison qui n'était pas efficace, on aurait eu du cyanure, on aurait utilisé du cyanure. Hein. Vous savez, quand vous êtes en danger de mort, la loi, on s'en fiche. Hein.
Bien sûr, je comprends.
Et bon, voilà. Et puis, ensuite, en juillet 75, ma mère a fait une tentative de suicide.
Mm-hmm.
Donc, elle a été hospitalisée. Bon, elle est restée 15 jours à l'hôpital. Et puis, il n'y a pas eu de suivi, ni psychologique, ni quoi que ce soit. Hop, retour chez son bourreau.
Mm-hmm.
Voilà. Enfin, ça a réitéré après. Mais moi, je craignais justement arriver en 93, parce qu'en 93, ma mère continuait de se plaindre de mauvais traitements. Bon, il la frappait plus, hein, parce qu'en fait, le vieux a arrêté de la frapper lorsqu'elle a fait sa tentative de suicide. Parce qu'en fait, bon, j'ai écrit un texte là-dessus aussi. J'explique pourquoi le vieux n'a pas tué ma mère. Et c'est facile à comprendre. Ça coule de source. Enfin, moi, je fais des études de psychologie aussi depuis pas mal de temps.
Mm-hmm.
Et de toute façon, du fait de toutes les épreuves que j'ai traversées, parce qu'en fait, à condition d'avoir la rhétorique et la dialectique, quand on a vécu des épreuves, quand on a souffert, on peut les expliquer.
Et alors justement, vous en avez conclu quoi ? Il n'avait pas tué votre mère pour quelle raison ?
Ben en fait, parce qu'il avait besoin d'elle pour
c'est
vivre.
Ça. Bien sûr. Alors,
parce que lui... Vous voulez que je lise le texte ?
Alors, juste avant, peut-être que je réagisse surtout, si vous voulez bien, sur ce que vous disiez, parce que ce sont des points importants, ce que vous venez d'exprimer, parce que donc, vous avez grandi dans un cadre de violence, de la violence de votre père sur votre mère, mais d'une certaine manière, une mère, alors vous dites le syndrome de Stockholm, donc elle était prisonnière de la situation, mais à la fois... elle-même contenait une certaine agressivité, qu'elle retournait ou contre elle dans cette tentative de suicide, ou quand elle vous arme pour être en rapport de force avec votre père, ouais. Face à votre père, c'est une façon assez violente, non verbale, de dire des possibles accessibles pour vous. Hein, c'est-à-dire que c'est potentiellement enfermant, puisque ça peut vous mettre dans la situation d'être à votre tour un bourreau, même si c'est au nom de la défense de votre mère, c'est potentiellement poser l'irréparable qui ne serait certes, j'allais dire, du point de vue stricto sensu de la relation avec votre mère, une protection, mais pas du point de vue du psychisme de l'enfant qui se serait retrouvé meurtrier, ce qui aurait été très grave pour vous, évidemment.
Donc, non. Le but, c'était pas de... C'est de s'en servir en cas de légitime défense.
Oui, j'entends bien, mais...
C'est pas dans le but de lui régler son compte.
Bien sûr, mais j'entends bien quand même que vous aviez même pensé pouvoir l'assassiner, enfin, tous les enfants peuvent le penser, mais vous avez même tenté, même si ça n'a pas abouti. Et votre maman, pour vous protéger, elle vous a proposé une arme, et pas la police, c'est pas les voisins.
En fait,
et pas...
Non, c'est pas elle qui m'a proposé, c'est moi qui lui ai proposé. Parce que bon, il y avait aussi cette idée dans la tête, mais en fait, moi, nous, on était conditionnés par la violence. La violence à la télé, dans la rue, à l'école, pas trop à l'école, mais surtout à la télévision, hein, les films de violence. Hein. Puis bon, c'est toujours pareil, hein.
Oui,
ça
mais
jamais, ça.
Bien sûr, mais il y a eu la violence de la guerre, qui a été un film en direct, et qui a été d'une grande violence avec des grands risques et avec des peurs. Vous avez eu les peurs de l'enfant battu par son père, vous avez eu les peurs d'un enfant voyant sa mère incapable ni de protéger ses enfants, ni de se protéger elle-même. Et alors, si à ça, on rajoute évidemment les films de guerre, les films de violence, Évidemment que ce fut, j'allais dire, vous avez bu à la mamelle de la violence, de l'agressivité et du danger. Et évidemment, la question se pose, est-ce que je suis du côté de la mise en danger ou est-ce que je suis du côté de potentiellement celui qui va pouvoir déployer son agressivité, ne serait-ce que pour se défendre. Et effectivement, vous êtes retrouvé dans ce deuxième cas de figure, j'allais dire silencieusement, vaguement silencieusement, entretenu aussi par votre maman. D'ailleurs, où en sont vos parents aujourd'hui? Ils sont décédés l'un et l'autre ou pas?
Alors, j'ai vu ma mère hier, elle est en maison de retraite à Quimper et elle est très très mal en point. Donc je m'attends à une nouvelle... Je vais dire une bonne nouvelle, parce que moi, j'en peux plus de la voir souffrir.
Bien
et
sûr.
Elle-même, elle peut partir.
Donc en fait, et votre papa, lui, est décédé?
Oui, en juillet 2010.
D'accord. Donc,
que 4 jours après.
Pardon?
C'est-à-dire, je ne l'ai appris que 4 jours plus tard.
D'accord. Parce que votre mère... C'est votre mère qui vous l'a appris que 4 jours après ou c'est parce que...
Non, c'est même pas ma mère, c'est sa sœur, ma tante.
D'accord. Parce que votre mère ne vivait plus avec lui?
Oui. Attendez, si, mais il faisait chambre à part depuis le départ de mon frère Philippe.
D'accord.
Mon frère Philippe, il s'est engagé dans l'armée de terre à l'âge de 18 ans. Il s'est paré dès qu'il a pu.
Mmh.
Il a fait 7 ans d'armée. Après, il est parti 8 ans en Israël. Il est revenu sur Lyon. Il a travaillé un peu grâce à un gros piston du ministre de la Défense, Charles Bernu, comme gardien dans un complexe sportif. Et puis après, il a réussi à se faire muter au parc de la Tête d'Or à Lyon. Et puis après, à 43 ans, il a passé le concours de la police municipale. Il a été reçu. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que mon frère et moi, nous étions tous les deux des délinquants à partir de 12 ans. De l'âge entre 12 ans et 18 ans,
donc
on est devenus des délinquants.
Donc là, vous parlez bien de votre frère aîné, hein, c'est ça?
Oui, ouais, il est devenu policier municipal. Comment?
D'accord.
Et je pense que c'était un bon policier.
Je sais
un peu ce qu'il a fait.
Vous savez, c'est pas parce qu'on a été délinquant qu'effectivement on ne peut pas être un bon policier. Je pense que finalement, l'un comme l'autre, vous avez chacun à votre façon essayé de protéger ou vous êtes senti coupable de ne pas pouvoir protéger, de ne pas pouvoir défendre, de ne pas pouvoir faire régner l'ordre et la justice parce qu'il n'y a pas eu d'ordre et de justice ni de la part de votre père qui était le premier des délinquants et pour le coup qui en est resté à cette position de délinquance. Et votre mère qui n'a pas pu poser la limite infranchissable parce qu'elle n'en était pas capable, parce qu'elle était trop fragile, parce qu'elle était dépendante, parce qu'elle était elle-même peut-être victime.
Oui, je sais tout ça.
Voilà, victime de lui ou victime précédemment dans son histoire personnelle.
En fait, non, il a tout arrêté parce qu'en fait, mon action de représailles, ça a été à la fois un demi-succès et un demi-échec. Alors un demi-succès parce que j'ai réussi à faire arrêter les violences psychologiques sur ma mère, et un demi-échec parce que j'ai pas réussi à l'envoyer au tribunal, qu'on s'explique devant un tribunal.
Oui, j'ai bien compris. J'ai parfaitement compris. Croyez bien, Paul, c'est bien compris que le but d'être délinquant et d'être arrêté et que votre père puisse porter plainte, c'était vous amenez-vous à la justice et vous amenant à la justice, il s'amenait dans un cadre de justice où il devait répondre lui-même de ses actes. Évidemment, et que ça n'a pas abouti, et que finalement, ce que la justice a déclaré d'une certaine manière, c'est que vous n'étiez pas coupable, parce que donc elle a entendu, si elle vous a dit que vous n'étiez pas coupable, si vous n'avez pas été puni, c'est parce qu'elle a estimé
non,
que vous
non,
étiez...
Mais non, vous n'êtes pas du, vous n'êtes
ah,
pas du
je
tout.
N'y suis pas du tout, alors dites-moi.
Mais j'ai jamais été entendu par la justice, j'ai été entendu par la police, une inspectrice,
oui.
Madame Pierre Chirin, je me rappelle de son nom. Encore.
Mais c'est ce que
qu'on a tous été contre.
C'est ce que je,
oui.
Enfin, quand je parlais de justice, je ne parlais pas nécessairement dans un palais de justice. Je parlais des représentants de la justice, dont la police, bien sûr. C'est de ça dont je parlais.
Oui, mais enfin bon, moi ce que je voulais, c'est l'emmener, qu'on aille s'expliquer devant le tribunal.
Alors,
je n'ai pas fini. Je vous avais expliqué tout à l'heure qu'il y avait eu 3 drames. Donc, tentative de parricide, tentative de suicide de ma mère en 75. À l'époque, je faisais mon service militaire. Encore un mauvais souvenir. Et ensuite... Il y a eu un drame terrible, c'est qu'il y en a un jeune de 17 ans qui en est mort.
Qui est mort de...
Voilà. De mort violente.
Oui, d'accord.
Non, je vais pas... Peu importe. J'en ai parlé, ça je me suis expliqué. J'ai été invité deux fois sur un plateau de télévision Jean-Luc Delarue.
D'accord, qui est...
Bon, la première fois, c'était pour m'expliquer sur ce drame, parce que au tribunal, parce que moi, je suis passé aux assises à Quimper, et c'était une véritable parodie de justice.
Mmh.
Et je m'en suis rendu compte après coup, mais je m'en foutais, de toute façon. Moi, j'étais content de me retrouver en prison, hein, parce que mon calvaire était terminé.
Donc, vous voyez, Paul, tout ce que vous dites, ce qu'on entend très bien, c'est que quand l'enfance est maltraitée, quand elle est malmenée, eh bien, ça déclenche inévitablement des appels au secours, des besoins de protection. Et quand ces besoins ne viennent pas, comme vous l'avez très justement dit, l'enfant lui-même essaie de se mettre à l'abri. Il se met à l'abri, effectivement, en fuguant.
Oui.
Mais souvent, il revient parce qu'il a le sentiment qu'il a laissé les autres en risque par rapport à ceux qui sont violents, notamment votre maman. Donc, vous avez essayé beaucoup de choses. Vous avez réussi et échoué des choses parce que c'était d'abord pas à la hauteur d'un enfant et parce que les adultes eux-mêmes, votre papa, mais votre maman aussi, même si c'était par fragilité, elle est aussi une adulte, n'a pas été en mesure, en capacité de pouvoir assurer un cadre pérenne. La police non plus, en tout cas pas comme vous l'auriez souhaité. La justice donc pas, puisqu'elle n'a pas pu jouer son rôle. Et tous les événements dans lesquels vous avez vécu, les tensions entre des peuples, au sein d'un peuple, aussi la définition du masculin guerrier, avec le service militaire, avec les armes à feu, avec le risque que l'on encourt, certes pour se protéger, mais le risque que l'on encourt d'en faire usage. Et tout ça, évidemment...
Justement, vous touchez un point sensible, parce qu'en fait, le jeune, je me suis fait agresser à 3h du matin dans le Nord Finistère, pas très loin de Morlaix, et ben voilà, et ben moi je me suis fait agresser par 3 jeunes en état d'ivresse, et ben j'ai fait une décompensation, et il y a un coup de feu qui est parti, qui a ricoché, qui a tué un des 3 jeunes. Voilà. Et ça a été prouvé, démontré par les experts.
Mmh.
Bon, et j'ai été inculpé de meurtre, hein. Mais bon, je m'en foutais, mon calvaire était terminé. Bon, alors j'étais content de me retrouver en prison parce que le stress, parce que j'étais aussi, à ce moment-là, je subais du harcèlement moral au travail. Hein.
Alors,
hein, pendant, ça faisait 18 mois. En fait, moi, j'ai cumulé les épreuves.
J'entends bien que vous avez cumulé. Et c'est ça, en fait, si vous le permettez, Paul, pour voir un peu plus au-delà de simplement votre histoire, qui est une histoire extrêmement lourde, les événements douloureux d'un individu font des manquements, des blessures extrêmement fortes qui souvent font après la lecture que nous avons de nous-mêmes. Et comme par hasard, eh bien, les histoires se cumulent et les histoires viennent toujours corroborer les premières. C'est extrêmement difficile de se sortir des mauvais pas de départ. Je pense que vous avez essayé avec... moult fois, avec parfois réussite, moins de réussite à d'autres moments, mais comme vous le disiez très justement, même être arrêté, même être emprisonné, était pour vous l'assurance d'être protégé et de l'extérieur et de vous-même, parce que évidemment cette violence, elle a agi de l'extérieur vers vous et vers votre mère ou votre fratrie, mais elle a aussi agi à l'intérieur de vous en nourrissant une colère immense, une envie meurtrière de son père très légitime, qu'on peut entendre, hein, bien sûr. Mais pour autant, le passage à l'acte qui est possible est extrêmement anxiogène. Et puis ça se reporte après sur la vie en société. Et je vous remercie de ce témoignage parce que ça permet aussi de comprendre combien, en tant que parents, nous avons un devoir, quelles que soient nos faiblesses, de protéger nos enfants, de les protéger aussi de la violence de notre partenaire. Nous choisissons nos partenaires dans la vie. On ne sait pas à l'avance qui ils deviendront, bien sûr, mais on doit toujours être alerte sur le vent qui tourne et protéger nos petits qui, justement, grandissent avec une idée des valeurs, une idée de l'amour de l'absence d'amour qui font qu'ils nourrissent une idée dévalorisée d'eux-mêmes et un besoin de super-héros quand ils n'en ont pas encore les moyens parce qu'ils n'ont pas encore la maturité, l'autorité, la force physique, etc. Donc,
vous êtes en train de parler aux auditeurs, hein, c'est bien, parce que moi, je sais tout ça.
Oui, mais Paul, vous parlez, là, vous venez pour parler de vous, mais parler de vous auprès des auditeurs. Quand vous vous mettez en scène, que ce soit à la télévision ou à la radio, vous venez raconter votre histoire pour servir justement d'exemple, de modèle, d'alerte. Et je vous en remercie à ce titre. Et c'est bien sûr pour cela qu'effectivement, je vous remercie parce que vous permettez à certains auditeurs d'éviter les ornières ou de veiller à ne pas tomber dans les difficultés qu'ont pu connaître votre frère peut-être, ou vous, je que sais-je. Et ça, je vous en remercie. Ce n'est pas par mépris de votre histoire. J'écoute bien votre histoire et je la lis comme l'ambassade que vous faites, que vous offrez aux uns et aux autres pour comprendre l'importance de prendre soin les uns des autres. Je disais en préambule la douceur à nous apporter et vous en avez manqué furieusement et j'en suis tellement désolée. Et pour autant, il vous faut maintenant vous accorder de la douceur à vous, plutôt parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous êtes peut-être à la veille de moments douloureux avec votre maman que vous avez essayé de protéger et pourtant qui passera un jour de vie à trépas.
Ce ne sera pas un moment douloureux. Moi, je suis pressé que ma mère s'en aille parce que moi, je ne supporte plus de la voir souffrir comme ça.
D'accord.
Malgré qu'elle ait aussi sa part de responsabilité.
Bien sûr.
C'est pour ça que mes frères ne viennent pas la voir. Hein.
Mais bien sûr.
Ils ont des pauvres liens contre elle.
Mais bien sûr. Bon.
Et moi, je vais pas dire que je lui pardonne, mais si elle n'avait pas été victime elle-même, je n'aurais pas eu la même attitude envers
bien
elle.
Bien sûr, Paul.
Et moi, ça fait 10 ans que je me bats pour le problème des violences familiales. Plus de 10 ans, en envoyant des courriers à des hauts responsables un peu partout, à droite, à gauche.
Bien sûr.
Et c'est à chaque fois, c'est un coup d'épée dans l'eau à chaque fois.
Mais peut-être faut-il essayer justement la notion se battre est peut-être quelque chose qu'il vous faudrait réfléchir. On n'est pas toujours obligé de se battre. On peut faire entendre en douceur sans être en train de se battre.
J'ai arrêté là, je suis épuisé parce que j'ai des problèmes de santé. Et puis moi, il y a quelques années, j'ai essayé de monter une association par rapport aux violences familiales et on m'a empêché de le faire.
Alors,
j'ai voulu passer une annonce dans un journal local, une parution sur 3 jours. Ils n'ont jamais fait paraître mon annonce.
Alors peut-être qu'il faut récidiver courageusement, ne pas en vouloir aux uns et aux autres pour ne pas être trop armé de colère, puisque la colère est perceptible par les autres et ça leur donne du mal. Ils ont du mal du coup à adhérer, sauf à être même en colère. Paul, je suis désolée.
Moi j'ai eu la haine. Juste pour finir, moi j'ai eu la haine, mais la haine vous détruit, mais la colère vous maintient debout. Parce que si je ne suis plus en colère, je m'effondre.
D'accord. Alors, je comprends. Je pense qu'elle ne vous fait pas de bien non plus, mais je comprends qu'elle vous tienne en alerte et en mouvement. Je le comprends parfaitement, Paul. Excusez-moi, Paul, il va falloir que nous nous quittions.
Oui, bien sûr,
j'en suis désolée.
Je suis désolée pour ceux qui attendent.
Non, mais il n'y a pas de souci. Vous aviez toute votre place, mais maintenant, on va leur laisser un peu de place également. D'accord ?
Bien sûr. Bonjour, merci Catherine et toute l'équipe.
Je vous en prie, passez une bonne soirée, Paul, et tranquillisez-vous un peu. Bonne soirée.
Bien sûr, au revoir.